4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour, bonjour les amis, allez-y, installez-vous, la table des bons vivants déplie ses rallonges pour bien vous recevoir. Alors vous avez remarqué, hein, c'est la saison des plats mijotés. Nous irons chez le boucher faire le casting des morceaux que vous pourrez cuisiner ce week-end. Et puis notre dossier du jour est consacré aux fruits et légumes qui nous veulent du bien et qui nous aident à passer l'hiver. Sans oublier le dessert du jour que nous partagerons avec notre invité, le comédien Bruno Salomon, un bon riz au lait, si ça c'est pas réconfortant. Eux aussi ils sont réconfortants. Voici les bons vivants du jour. Ils transforment n'importe quel ingrédient en plat qui reste en mémoire. C'est le magicien du goût, Yves Candebord, qui est avec nous.
Bonjour Laurent,
bonjour,
bonjour
tout
le monde.
Ravi de vous recevoir à cette table comme presque tous les samedis, cher Yves. Occupé par l'inventaire de sa cave la semaine dernière, le revoilà frais et pimpant. Ce samedi, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Ah, il a fallu au moins une semaine pour compter les bouteilles puis vérifier aussi la qualité de certaines d'entre elles.
Et la température de la cave.
Je suis ravi de vous retrouver.
Plaisir partagé. Jean-Luc Petit-Renaud nous donne rendez-vous tout à l'heure dans son jardin d'hiver. Et Marion Sauveur n'est pas loin avec son journal de la cuisine. Voilà, vous savez tout. Alors dans un instant, nous allons aller au marché en bon camarade, hein. Nous irons du côté de Toulouse, mais juste avant, on va faire marcher notre machine à remonter le temps, celle des papilles. Quel est le goût qui a marqué votre semaine? Je vais commencer par vous, Yves Candebord.
Alors, ça ne va pas remonter très loin, mais ça va remonter à dimanche dernier, Laurent. J'étais invité chez les amis et bien souvent, quand ils m'invitent, c'est toujours pour eux un complexe de dire qu'est-ce qu'on va lui faire à manger. Ils m'ont fait une raclette. Je me suis régalé.
Ah, voilà.
Mais qu'est-ce que c'est bon. Je me serais cru sur les pistes de ski à la Clusaz, tranquillement, face au soleil. On s'est régalé, c'était onctueux, c'était assaisonné.
Les bons fromages.
Des bons fromages, bien sûr. Des fromages qui ne sont pas achetés en grande distribution, qui sont choisis chez un bon fromager.
Au lait cru.
Au lait cru. Et c'est vrai que c'est vraiment des recettes qui nous font du bien. C'est des recettes de saison, des recettes qui sont
rondes.
Et de
la charcuterie aussi.
Et avec un peu de charcuterie, c'est un équilibre. Et je conseille tout le monde.
Mais oui, une bonne raclette. Et les pommes de terre sur le haut qu'on maintient à température. Hein.
Avec la pomme de terre, charcuterie, fromage,
mais oui.
Légèrement fondu.
Que demande le peuple.
Juste à point.
J'ai une question technique. Alors, est-ce que c'était avec, vous savez, les appareils avec les petits caclons individuels ou est-ce que c'était vraiment à l'ancienne, vous savez, où on met la demi-meule de fromage et on racle d'ailleurs, d'où le nom.
Alors, c'était pas la demi-meule de fromage, c'était pas à l'ancienne. C'était avec ces nouveaux appareils, un peu ces petits caclons. Et honnêtement, c'est pas mal non plus parce que chacun peut faire sa petite cuisine dessus. C'est très agréable.
Votre goût de la semaine, cher Olivier Pouls.
Je veux dire, c'est assez incroyable. On ne s'est pas consulté avec Yves, mais alors que lui mangeait la raclette, moi, figurez-vous que je mangeais une fondue au fromage.
C'est bien, c'est le saison.
On est vraiment dans la montagne. Alors là, c'est un petit peu différent. Trois fromages, évidemment. Alors moi, il y avait Étivaz, Comté et Beaufort.
Bah oui.
En temps pour temps. Petite goutte de vin blanc, bien sûr. Petite goutte de schnapps. Hein, toute petite goutte. Et puis après, là, le pain rassis qu'on va plonger dedans. En essayant de ne pas le faire tomber, évidemment.
Ah oui, sinon il y a un gage.
Voilà, et on tourne, et avec les fils, ça remonte. Et moi, j'adore ça aussi.
Et surtout pas d'eau, hein. Faut pas boire d'eau quand on déguste la fondue.
Que du vin, mon ami.
Non, mais c'est vrai, hein, oui. C'est pas une blague, hein, donc, parce que ça fait un bloc de béton.
Laurent, vous pensez que Olivier boit de l'eau?
Non, vous avez raison, mais c'est pour nos amis auditeurs, parce qu'ils sont quand même nombreux.
Faites très attention, les amis.
Mon goût de la semaine, moi, c'est un poulet rôti, c'est celui de ma mère, mais qu'elle fait en cocotte. J'ai été la voir pour déjeuner avec elle cette semaine. Et un bon poulet rôti en cocotte, bien mijoté, avec beaucoup d'oignons, un petit peu d'eau, et puis de belles branches de romarin. Je peux vous dire qu'il a tellement qu'il a tellement mijoté, c'est un vrai poulet fermier qui vient de la ferme d'à côté, hein, bien entendu. On pourrait presque le manger à la cuillère. Voilà, un bon poulet rôti, mais en cocotte, c'est délicieux. Et puis on a un autre goût qu'on partage ensemble, c'est le goût de la tristesse ce samedi. Notre camarade Sébastien Demorand, que vous connaissez probablement, grand critique gastronomique, nous a quitté. Donc je voudrais vraiment lui dédier cette émission. On va lui rendre hommage et puis on va le remercier pour ce beau métier de critique gastronomique qu'il a anobli à la télévision, à la radio et aussi dans les guides. C'est l'heure d'aller au marché, comme tous les samedis. Chers amis, Benjamin Peter, le correspondant d'Europe 1 dans la région toulousaine, nous emmène au marché de Villefranche-de-Lauragais, c'est en Haute-Garonne. Alors quel est le menu d'aujourd'hui? Combien de temps passez-vous en cuisine? Vos réponses entre deux pesées de légumes.
Moi, je passe beaucoup de temps à cuisiner. Là, en fait, j'ai pas mal de temps, donc je dirais au moins 2 heures, quelque chose comme ça. Après, ça dépend. Des fois, j'ai le cerveau en ébullition, j'ai plein d'idées, il y a des fois...
Vous avez goûté cette clémentine et Hernandine, là?
Un goût d'y revenez-y.
Qu'est-ce que j'ai pris? Des salades, des blettes,
À la poêle, oui, avec de l'ail et vous mettez de la chair à saucisse et vous faites revenir. C'est délicieux. Je cuisine pour mes enfants. Le week-end, ma fille prend un peu la relève.
Comme ça, c'est vous qui vous faites inviter.
C'est ça.
Je concentre quand je fais quelque chose. Je fais plusieurs plats à la fois et puis voilà, donc je m'organise. Mais oui, bah, de toute façon, tous les jours, je suis en cuisine. Ça, c'est sûr.
Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ben, les légumes pour faire la soupe. C'est de saison. Ouais. Les poireaux, les carottes, le panais. Et ça fait de la soupe. Ça prend du temps, mais après c'est meilleur et on est en meilleure santé. Et comme on est de moins en moins remboursé, ben, il vaut mieux prévenir que guérir.
Mais c'est tellement vrai. Mais vous avez raison, madame, c'est exactement ça.
C'est notre première médecine, finalement.
Bien
la
sûr.
Meilleure médecine préventive, c'est ce que nous mangeons.
Et rien de tel qu'une belle soupe maison. Et puis n'oubliez pas de partir au marché avec des idées de menu à l'avance. C'est comme ça qu'on arrive à faire des courses efficaces. Vous êtes d'accord, Yves Candebord ?
Oui, c'est vrai que la liste de courses est importante, surtout quand on n'est pas trop habitué. Pour s'habituer, c'est important de partir avec déjà une base et une idée précise de ce
qu'on
va faire.
Moi, j'aime bien aller le nez au vent, voyez-vous.
Aussi.
J'aime bien regarder.
Les
et puis c'est les étals qui m'inspirent. Parce que parfois, on cherche des trucs et puis il n'y a pas. Et donc, on est un peu perdu.
Le danger, c'est de laisser le poireau après toute la semaine dans le frigo.
Oui, non, il faut s'en occuper. C'est la saison des mijotés. Eh bien, il est temps de faire chanter la cocotte, les amis. On vous dit tout sur les viandes à mitonner sans fausses notes. Nos morceaux choisis, c'est juste après ça. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
C'est l'hiver et côté cuisine, vous êtes nombreux à avoir sorti les cocottes pour faire des plats de saison rassembleurs et réconfortants. Blanquettes, bourguignons, ossobuco et autres pot-au-feu sont de circonstance, les amis. Alors ce matin, on vous emmène faire un petit tour chez le boucher pour choisir les meilleurs morceaux de viande à mijoter. Alors là, je viens d'évoquer les grands classiques, mais il y a plein de morceaux et de recettes qui aiment passer du temps en cocotte. Tiens, Yves Candebord, si on prend le bœuf, quels sont les morceaux qui représentent la Sainte Trinité pour vous, ce qu'il faut vraiment cuisiner ?
Alors moi, c'est la queue de bœuf, Laurent.
Ah oui ?
La queue de bœuf,
c'est pas cher.
Déjà, c'est pas cher. Alors, c'est surtout l'un des morceaux pour moi les plus moelleux, les plus onctueux du bœuf quand on veut le faire en mijoter. Et c'est assez facile à faire. Une queue de bœuf, on la fait couper par son boucher,
en tronçon,
mariné
oui.
Au vin rouge, carottes, beaucoup d'oignons pour amener un peu une rondeur, mariné pendant 24 heures. Après, on les saisit, on remet tous les légumes dedans. Et la petite astuce, c'est le vin. On va le faire bouillir avant pour le flamber, pour enlever l'amertume. On recouvre avec le vin flambé. On laisse mijoter pendant 1h30, 2h. Et on a une queue de bœuf au vin rouge, toute simple,
mais c'est
excellente.
Mais vous êtes connu pour avoir anobli la queue de bœuf à Saint-Germain-des-Prés, Yves Candebord.
C'est vrai qu'on a donné les lettres
oui,
de noblesse à tous ces morceaux qui n'étaient pas reconnus. On leur a donné une reconnaissance gastronomique.
La fameuse bistronomie, on en parlera tout à l'heure. Un autre morceau, tiens, dans le bœuf.
Alors, dans le bœuf, ce que j'aime, ça, c'est la joue. Parce que la joue, là, après j'ai envie de dire, dans beaucoup d'animaux, la joue est une des parties les plus charnues, les plus agréables. Et la joue, ce que j'aime faire, Laurent, c'est la cuire. Je la cuis de façon pot-au-feu, je la laisse refroidir, je la coupe très finement comme un carpaccio, et dessus je dépose des quatre citrons, des câpres, des petits croutons, de la ciboulette, un bon trait d'huile d'olive, un peu de vinaigre de vin. Ça me fait un carpaccio de joue de bœuf, froid.
Et vous la caressez, la joue, avec tous ses aromates, alors.
Et je la relève, je lui redonne. Et il y a ce croquant qui est très agréable quand on la mange.
Ah, c'est bon, ça. Alors, du côté des cochons bien élevés, il y a de bons morceaux aussi, Olivier Pouls.
Mais il y a aussi la joue.
Oui, c'est vrai.
La joue de cochon, c'est vraiment un morceau extraordinaire parce que c'est gras, c'est moelleux. Ça n'a pas besoin de cuire trop longtemps, d'ailleurs. Ce n'est pas des cuissons aussi longues qu'on peut imaginer qu'un pot-au-feu, par exemple. Mais bien confite, une joue de cochon, c'est absolument magnifique.
Alors, pour compléter la liste des courses, nous avons rencontré le chef Antonin Bonnet, à la tête de la boucherie Grégoire, près de Montparnasse à Paris. Et Julien Amat lui a demandé ces trois morceaux de viande à mijoter. Un trio gagnant auquel on ne pense pas assez. Écoutez bien.
Là, on est dans la chambre froide. Il y a 3-4 agneaux, un demi-pendu de veau, deux cochons qui sont arrivés de la ferme ce matin, la ferme de la Grusardière. Voilà. On va parler classique. Si on prend le plat de côte, c'est très très bon quand même. Bah, c'est un peu comme une poitrine de cochon, mais sauf qu'on est sur le bœuf, avec les os en plus. On est toujours un petit peu intimidé par la taille des morceaux. Le porc, moi je pense, un morceau d'épaule, ça peut vraiment être sensationnel. On n'y pense jamais en fait. Pour la blanquette, on peut prendre flanchette, tendron, poitrine. Là, il faut carrément du cartilage, il faut de la gélatine. C'est ça qui va donner ce côté un peu robuste. Il y a la tripe de veau, personne n'en parle, mais c'est à se rouler par terre. La tripe de veau avec un morceau de poitrine de veau. C'est la panse en fait qui a été blanchie, qu'on taille en dés, qu'on fait revenir avec un peu d'oignon, de poireau, échalote. Tu mouilles ça à la tomate, un bon coup de vin blanc, des écorces d'orange, un peu d'anis étoilé. Et on cuit tout doucement, tout doucement. Et là, c'est plutôt pas mal. J'ai pas vraiment de favoris, c'est difficile.
Eh oui, c'est comme quand on a plusieurs enfants, c'est compliqué de choisir. Bah, c'est, voilà, c'est pareil, les beaux morceaux du boucher. Et Antonin Bonnet nous a parlé des morceaux de la blanquette. C'est vrai que le flancher, le tendron, l'épaule, effectivement, une belle épaule aussi de veau pour la blanquette, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment un temps à faire une blanquette, ça. Hein.
Oui, c'est un temps à faire ces plats-là. Alors, un petit conseil, quand on fait ces plats-là, que ce soit une blanquette, que ce soit un bourguignon, que ce soit un pot-au-feu, surtout l'ébullition. L'ébullition, c'est vraiment... Tout doucement. On a tendance des fois à faire trop bouillir l'ensemble. Ça, je dirais, ça stresse presque les viandes, ça les raffermit. Voilà. Alors que là, l'ébullition qui est vraiment très très souple et très légère, ça permet d'avoir beaucoup plus donc de volumes.
C'est frissonner.
Et ouais. On rappelle qu'une blanquette, quand elle est liée, quand elle est faite, on ne la réchauffe pas.
Non, oui. Non, c'est hein petit message à Julien Arnaud qui nous écoute et qui adore faire de la blanquette. Julien Arnaud, le présentateur du journal de TF1 que vous connaissez, qu'on invitera d'ailleurs à cette table. Allez, ne bougez pas. On revient dans un instant avec le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Et puis nous ferons le point sur les fruits et légumes qui nous veulent vraiment du bien en hiver. C'est juste après ça. Bon samedi matin sur Europe 1.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Être un bon vivant, c'est aussi manger ce qu'il y a de bon pour soi, antioxydants, vitamines et bons gras. On va se pencher sur les produits qui nous aident à passer l'hiver et on en a besoin. Mais avant de connaître les associations de bienfaiteurs, c'est l'heure du journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienfaitrice, elle toute seule, Marion. Elle a toujours le sourire. Non mais c'est vrai, ça, c'est faut le reconnaître. Alors Marion, voici les titres du journal de la cuisine. La loi anti-gaspillage a été votée par les députés. 72 restaurants deviennent bip gourmands. Et une eau de vie, Oriette, c'est pas une blague, vient d'être élaborée. Alors allons-y. L'Assemblée nationale a voté la loi anti-gaspi cette semaine, Marion.
L'objectif est de réduire le gaspillage alimentaire d'ici 5 ans de moitié par rapport à 2015 dans la distribution alimentaire et la restauration collective. La guerre au plastique est donc déclarée. Jeudi sera au tour des sénateurs de voter.
Le guide Michelin a décerné 72 nouveaux bibs gourmands.
Cette distinction récompense les restaurants au menu de qualité à un prix raisonnable. 13 nouvelles tables ont été distinguées en Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme en Nouvelle-Aquitaine, 11 en Île-de-France, 8 en Occitanie, 6 en Normandie et 3 dans le Grand Est. Lundi sera dévoilé le palmarès des étoilés.
Bah oui, on y reviendra la semaine prochaine, vous pensez bien à la table des bons vivants. On pourra bientôt goûter une eau de vie, écoutez bien, à base de rillettes et c'est pas une blague.
Alors là, je suis vraiment impatient.
Alors imaginez 20 kilos de rillettes macérées dans 20 litres d'alcool à 96 degrés. Le distillateur Emmanuel Vuitton estime qu'elle pourrait même être utilisée en cuisine.
Bah oui.
Écoutez le micro de François Coulon.
Peut-être en apéro avec des radis et du beurre salé, sur une salade, ça peut très bien fonctionner. Je ne sais pas si ça va révolutionner la gastronomie, mais en tout cas, on aura un produit pas si farfelu qu'il en a l'air.
Avis aux amateurs.
Et vous l'avez goûté ?
Non, pas encore.
Ah
pas
non,
encore. Les premiers litres seront vendus le 14 mars à l'occasion du printemps des rillettes.
Moi, je veux goûter les rillettes.
Ah oui, message personnel, Emmanuel Vuitton, envoyez-nous s'il vous plaît une eau de vie de rillettes et on va la commenter et la déguster. Marion, on passe à votre cerise sur le gâteau. Cette semaine, vous avez repéré un dîner caritatif dans le Val-de-Loire.
Et en fait, ce sont deux dîners. Ça se passe la semaine prochaine, les 1er et 2 février, en parallèle du salon de la Dive Bouteille, le salon des vins naturels à Saumur.
Ah oui.
Alors, ces dîners sont organisés par les Vendanges Solidaires, cette association qui soutient les vignerons qui sont victimes des aléas climatiques.
C'est très bien.
Comment ça se passe ces dîners ?
Alors, les chefs du restaurant Le Garde Champêtre dans l'Aube viennent cuisiner bénévolement avec toute leur brigade. Ils apportent leurs propres produits et ils réalisent un menu unique. Alors, il pourrait y avoir par exemple une crème de topinambour avec des coques, du céleri rave fumé avec un poisson cru et du gibier. Les réservations sont par contre obligatoires et ça se passe sur le site WizEvent. On mettra les références sur Europe 1.fr.
En général, il y a même une vente aux enchères aussi de vin pour justement permettre d'aider les vignerons qui se font malheureusement ravagés parfois leur récolte par le gel ou par la grêle.
Vous avez raison, il faut les soutenir. Merci Marion Sauveur pour ce beau journal de la cuisine. Alors, c'est l'hiver, il faut faire du gras. Mange du radis noir, c'est bon pour ton foie. N'oublie pas ton jus d'orange, il y a des vitamines. On a tous entendu ou prononcé ces phrases. Alors, peut-on compter sur nos assiettes pour combattre les maux de l'hiver ? Nous allons poser la question à notre invitée, la diététicienne nutritionniste Solveig Darrigaud-Dartinet, auteure de nombreux livres de cuisine, entre autres. Bonjour Solveig.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez collaboré 10 ans au magazine de la santé. Vous écrivez des articles Cines, pour Top Santé. Et vous militez pour la cuisine des 3S. Alors qu'est-ce que c'est que cette cuisine déjà?
C'est une cuisine accessible, c'est-à-dire simple, saine et savoureuse.
Ah oh bah ça me va.
Voilà.
Saine et savoureuse. Ah oui, on est client.
Oui,
c'est
oui,
la nôtre
oui.
Alors.
Oui, parce que ben, les gens cuisinent pas forcément, donc c'est pour rendre la cuisine accessible à tous les consommateurs et puis qu'elle leur apporte un bénéfice santé dans la mesure du possible et qu'ils se régalent.
Alors en hiver, on voit un peu partout ces dossiers consacrés aux aliments qui nous veulent du bien. On vous a invité justement pour trier, livrer du grain, comme on dit. Que faut-il vraiment manger pour passer l'hiver? Je vous propose un petit quiz, comme ça on va balayer les idées reçues. L'endive, elle est bonne pour le foie, c'est quelque chose que je lis partout, que je dis aussi régulièrement. Moi, j'ai le sentiment qu'elle me fait du bien au foie. Est-ce qu'il faut manger des endives en hiver? Est-ce qu'elle est bonne pour le foie?
Oui, c'est la salade de saison, donc on essaye de suivre les saisons et chaque salade va arriver au bon moment donc, pour l'organisme. Donc oui, la salade d'endive ou les endives braisées aussi, c'est riche en fibres et bah, ça permet justement de favoriser un bon transit intestinal.
Alors le radis noir. Ah oui, c'est bien, oui, les endives au jambon, c'est délicieux avec une bonne béchamel. Le radis noir, il nous veut du bien, il draine notre organisme, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on le propose de façon un petit peu en excès, juste après les fêtes, parce qu'on propose des jus de radis noir, etc. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis on garde la peau, parce qu'il est beau quand on le coupe.
C'est
ça
vrai.
Fait une belle tranche avec un petit liseré noir, parce que la semaine dernière, j'étais invitée chez une amie, elle avait tout éliminé la peau.
Non.
Et du coup, elle me dit, c'est du radis noir. Je l'ai tout blanc, du coup, c'est dommage.
Oui, taillé très finement, juste la peau brossée, comme vous dites.
À la mandoline, et c'est impeccable.
Une belle huile de noisette et un chèvre sec émietté par-dessus, c'est un bel accord.
Oui,
ça.
On peut faire des petits, petits millefeuilles, justement, avec chèvre, pomme, j'aime bien, avec l'association pomme verte aussi.
Ouais, c'est bien.
Le
ça.
Radis noir, voilà, ça lui donne un petit coup de peps.
Solveig, on a besoin de vitamine C en hiver. Alors, c'est quoi? C'est agrumes à gogo?
Pas à gogo, c'est agrumes. Pas forcément, comme on le recommande souvent, jus de citron le matin à jeun ou jus d'orange. C'est pas la bonne formule. Par contre, c'est vrai qu'il faut les intégrer dans son alimentation. Ça peut être le kiwi coupé en morceaux le matin. Ou,
riche en vitamine C, le kiwi ici.
Bah, un kiwi, un beau kiwi, ça fait quasiment le quota de vitamine C pour la journée. Donc, moi, je vois mes filles, on y va le matin et c'est déjà ça d'acquis. Hein.
Ça sert à rien d'en prendre trop de la vitamine C parce que de toute façon, on l'assimile plus.
Non, on l'assimile plus. Donc, c'est un certain quota. Donc, c'est environ 110 mg par jour. Alors, je vous dis, ça fait à peu près un kiwi ou sinon, c'est à peu près deux fruits type de clémentine à deux fois au moment de la journée. Voilà.
D'accord. Une question qu'Olivier Pouls se pose régulièrement. Est-ce qu'il faut manger beaucoup plus en hiver qu'en été?
Alors, on est quand même dans des pays industrialisés, donc on n'a pas besoin de lutter forcément contre le froid, mais on a nos doudounes, on a le chauffage à la maison. Donc c'est vrai qu'on a tendance à consommer des plats un peu plus roboratifs, tels que vous avez cité tout à l'heure, mijoter, etc. L'énergie et les calories dont on a besoin, ce n'est pas forcément une grosse quantité supplémentaire par rapport à l'été.
Est-ce qu'on doit manger plus gras?
On peut manger, en tout cas, certaines graisses, on en a besoin et on les élimine malheureusement souvent. Donc, faut pas. On parlait tout à l'heure des endives, justement, une petite vinaigrette. Faut pas négliger quand même les petites crudités et puis justement les vinaigrettes avec des bonnes graisses.
Eh bien, on va en parler justement. Faut-il se mettre au régime blanquette? Faut-il faire du gras, comme vous dites, en hiver? Ne bougez pas.
J'ai commencé.
On répond à ces questions avec notre invitée, la nutritionniste Solveig Darrigaud-Dartinet. A tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Se faire plaisir et du bien en hiver, ça passe aussi par l'assiette. On en parle ce matin avec Solveig Darrigaud-Dartinet, nutritionniste, diététicienne, auteur de nombreux livres et puis surtout gourmande, Solveig.
Oui. Hein.
Et à propos de gourmande.
Issue d'une famille dans l'hôtellerie et de la cuisine, donc une maman cuisinière, des parents hôteliers. Donc,
bien élevé.
Forcément, on est bien immergé.
À propos de gourmandise, Solveig, l'hiver est le moment où l'on dégaine les plats en sauce, les mijoter, on en parlait juste avant la pause. Hein. C'est nourrissant et c'est réconfortant en même temps, ça a du sens quand même de manger ça en hiver, rassurez-nous.
Oui, tout à fait, et en plus on a souvent des plats complets donc, qui sont équilibrés justement. On parlait du pot-au-feu, le pot-au-feu, il y a la viande, c'est une viande qui va mijoter dans un court bouillon. Il y a les légumes, il y a les féculents, la pomme de terre, et puis le bouillon, on le consomme. Donc c'est pas quelque chose qui est jeté, qui est perdu. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un sens. Ça hydrate parce qu'on pense pas forcément à boire en hiver. Donc c'est une bonne chose. Donc ces plats, je dirais qu'ils sont à la fois effectivement réconfortants, mais à la fois de bon sens. Le bon sens qu'on avait dans la cuisine, je dirais, familiale.
Le bon sens paysan, mais le pot-au-feu, moi je le trouve carrément diététique. Hein.
Mais complètement. Complètement, et ce n'est pas des morceaux gras en général. Alors, il peut y avoir effectivement un assortiment de plusieurs viandes.
Parce que...
Mais c'est ça qui va aussi apporter le,
le bon goût du bouillon. Et effectivement, ça fait un plat complet.
Yves Candebord ?
Oui, parce que c'est vrai, souvent on a tendance à penser que ces plats, ce qu'on peut dire plats mijotés, sont des plats roboratifs et gras. Mais quand on prend, bon, on prend l'exemple du pot-au-feu, mais si on prend l'exemple même d'une daube de bœuf, il
n'y
a aucun rajout de gras dedans. Bien souvent, même, on met énormément de légumes pour amener de la liaison ou une blanquette de veau. Alors, la blanquette de veau, on met un peu de crème dedans.
Voilà, à la fin. Mais par exemple, le bœuf bourguignon, c'est un plat qui fait vraiment peur aux gens. Et moi, je leur dis tout le temps, mais attendez, l'alcool, le vin rouge qu'on va ajouter dedans, en fait, justement, comme ça bouillonne un petit peu, à frémissement, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, on va avoir une évaporation, finalement, des calories de l'alcool. Donc, c'est un plat qui est beaucoup moins gras.
Vrai.
Que une entrecôte grillée aller-retour. Voilà. Alors, donc, c'est des plats qui ont vraiment une place intéressante.
En revanche, mon cher Yves, ta raclette et ma fondue de la semaine dernière, ça, c'est un peu plus gras. Surtout la charcuterie qui va.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Mais en même temps, on en a envie en cette période.
Oui, c'est vrai.
On mangerait jamais ça au mois d'août.
Moi, la première.
Mais là, on en a envie.
Non, c'est comme tout, quoi. Il faut en manger, mais pas en abuser, c'est ça?
Oui, et puis ce qu'on oublie souvent, c'est l'antidote un petit peu de tout ce sel qui arrive aussi. Parce que le problème, c'est pas que le gras. C'est charcuterie plus fromage, c'est un condensé de sodium. La nuit, voilà, c'est vrai. Alors, on pense aussi à ajouter une salade d'endives, des légumes, parce que le sodium, son antidote, c'est le potassium. Et le potassium, c'est dans tous les végétaux. On prend une salade de fruits en dessert, donc on y va aussi sur les végétaux, légumes, fruits, assorti avec cette raclette.
Ça, c'est important. Les amis, jamais de raclette ni de fondue sans végétaux, sans salade ou carrément, effectivement,
voilà,
même les légumes racines.
Voilà, on y va.
Solveig Darrigaud-Dartinet, quels sont nos déficits spécifiques en hiver? De quoi on a besoin vraiment pour affronter le froid?
Disons qu'on a parlé de la vitamine C tout à l'heure. On a aussi le zinc qui manque souvent. Alors le zinc, on va le retrouver dans les fruits de mer qu'on peut consommer justement aussi à cette période. On va avoir...
La fameuse vitamine
B12,
par
alors,
exemple.
Alors, la B12... On n'est pas trop carence. Enfin, les végétariens et les végétaliens, oui, parce qu'en fait, ils éliminent justement les sources de vitamine B12. On a la vitamine D qui est souvent déficiente parce qu'on manque de lumière. Alors, bien souvent, le médecin nous prescrit une petite dose de vitamine
en
D
ampoule,
en ampoule, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas dans des pays très ensoleillés. Et sinon, on va le trouver dans les poissons gras, justement, cette vitamine D.
Dans le foie de morue, même.
Foie de morue, on va l'avoir aussi dans... On l'oublie souvent, mais même une boîte de sardines ou macro.
Sardines,
ça, c'est tout simple. On peut faire des petites rillettes faciles avec un petit peu de cornichons, des capres. Voilà, donc essayez aussi de ne pas négliger ces sources-là. Et puis les huiles, bien sûr, les huiles végétales, donc les bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de noix. Parler des endives tout à l'heure.
Quand vous dites bonne huile, qu'est-ce que vous considérez mauvaise huile?
Alors, dans les aliments type viande, etc., fromage, on a déjà des graisses saturées et on a déjà des oméga 6. Donc, c'est des graisses qu'on va retrouver dans certaines huiles, comme l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, donc l'huile de pépins de raisin. Donc ça, ce ne sont pas des huiles qu'il va falloir encore manger sous forme de vinaigrette. On va plutôt s'orienter vers l'huile de noix, qui est délicieuse et puis qui va très bien en ce moment avec des noix, des endives.
Première pression à froid, hein, pour qu'on
si
ait
possible,
toutes les propriétés.
Voilà, alors elles sont troubles, mais elles ont beaucoup plus
bien
de
sûr.
Goût.
L'huile de colza.
L'huile de colza,
délicieuse
qui est riche en oméga 3.
L'huile de colza et l'endive, c'est une super combinaison.
Voilà,
c'est magnifique.
Voilà, c'est un peu, ça va pas du tout avec la tomate, mais tant mieux, ça va bien avec.
C'est vrai.
Légumes d'hiver.
Côté fruits, vous êtes venu, Solveig, avec une compote. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette compote? Elle a une belle couleur, hein, bien dorée.
Vous allez me dire, oui.
Comme on dit dans les tontons flingueurs, ça sent la pomme.
Alors, il y a de la pomme. J'ai fait un mélange de trois pommes. Il y avait de la Bosco, il y a de la pomme Canada grise. Il y a de la mangue.
Ouais.
Il y a de la cannelle, un bâton de cannelle que j'ai utilisé.
Aussi.
Et puis, un demi-bâton de vanille que j'ai gratté. Et puis, on fait mijoter à basse température. Donc, moi, je cuis beaucoup en cocotte à cuisson basse température pendant 10 minutes dans une cocotte en inox avec un fond bien épais à couvert. Et puis, à la fin, je mixe. Et puis, je rajoute, pour le côté un petit peu Pepsi, parce que la compote, ce sont des fruits cuits, je presse une clémentine. Clémentine corse.
Pas de sucre ajouté, c'est
pas
ça que j'aime
ajouté,
dans votre...
Parce
le
que
sent,
les épices, justement, elles vont apporter justement
apporter
ce goût.
Goût.
Et puis la clémentine ajoutée en fin de cuisson, elle ne cuit pas, donc la vitamine C, elle est intacte. Et du coup, ça donne un petit coup de peps à cette compote.
Donc ça,
tout simple.
Au petit-déj ou en dessert, même ça
oui,
marche.
Oui, en dessert, c'est très bien. Après, on la mixe ou on la mixe pas, suivant si on veut que ça, que ça s'associe encore mieux au niveau des saveurs. C'est au choix.
C'est efficace. Merci, Solveig Darrigaud-Dartinet. Je rappelle votre dernier livre, tiens. Chacun ses recettes pour un microbiote en forme avec le docteur docteur Didier Chausse chez Solar. Hein, le microbiote, c'est notre flore intestinale qu'il
faut
bichonner aussi.
C'est ce qu'on appelle, voilà, maintenant, c'est l'ancien nom, c'était flore intestinale, et c'est ce qui fait que justement, on va tolérer ou pas tous les aliments.
Merci d'être passé à notre table et on vous retrouve dans vos beaux livres de cuisine. Merci Solveig Darigaud d'Artinet. On continue à se faire du bien à la table des bons vivants. Le camarade Jean-Luc Petit-Renaud n'est pas loin, il arrive. Et on vous emmènera aussi dans les coulisses des prix d'excellence du concours général agricole. Et nous aurons même une interview exclusive du président de la République pour la table des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être à l'écoute des bons vivants, les amis, et soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Nous sommes là tous les samedis de 11h à midi et demi. Alors, un mois avant le Salon de l'agriculture, nous allons nous intéresser aux médailles du concours général agricole. Vous savez, ce sont les médailles que vous voyez sur les bouteilles de vin, les pots de confiture, les volailles ou les conserves. On fête cette année les 150 ans de ce premier concours général agricole. Et à l'époque, c'était Napoléon III, l'empereur, qui avait à cœur de promouvoir et développer ce qu'il appelait la première industrie de France, l'agriculture. Et d'ailleurs, Olivier Pouls, on parle du Second Empire comme l'âge d'or de nos campagnes. Hein.
Bah oui, à cette époque, les surfaces dédiées à l'agriculture sont en expansion. On atteint même un record historique en 1870, puisque 26 500 000 hectares sont dédiés à l'agriculture. Alors c'est à peine un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais il faut quand même ramener ça aussi à la population de l'époque, qui était beaucoup plus faible.
Évidemment. Alors la semaine dernière, les prix d'excellence ont été remis à des agriculteurs, des vignerons, des apiculteurs venus de toute la France. J'y suis allé, c'était au ministère de l'Agriculture, en présence du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, et du président de la République. Alors les prix d'excellence, c'est quoi? C'est vraiment la crème de la crème. Hein. Ça a lieu tous les ans, cette remise de prix. Il y en a une trentaine, et ça met en avant vraiment les producteurs qui ont obtenu les meilleurs résultats dans leur catégorie de produits. Et je vous ai ramené quelques produits, rapporté quelques produits.
Il y a comme du fromage que je suis en train de manger.
Ah, il est pas mal ce fromage. De Michel Passat, de la fromagerie d'Orval en Berry, dans le centre Val de Loire. Médaille d'or, voilà. Et puis prix d'excellence au concours général agricole.
Donc,
c'est bon ça. Hein,
oui, c'est très bon.
Je pense que c'est vrai aussi que c'est très important pour ces gens-là qui travaillent au quotidien et qui bien souvent ne sont pas assez reconnus.
Absolument.
Voilà, pour eux, vraiment, c'est le Graal. Moi, j'ai des amis dans les Landes qui ont reçu un prix, là, les volaillers, la maison Ronsard.
Oui.
Je peux vous assurer, pour eux, c'est
très important.
C'est très, très
Mais vous
important,
avez raison, ça augmente le chiffre d'affaires de 15 à 20% ce prix d'excellence, hein,
voilà,
quand on le reçoit.
Ça va leur permettre de continuer à se développer, ça va permettre de continuer à faire des produits de qualité. C'est vrai que pour eux, c'est important. Soutenons ces gens-là.
Du côté des vignerons, il y a la famille Larope aussi pour les gris de Toul.
Oui, hein, alors c'est vrai que pour les vignerons, c'est important pour les petites appellations, on va dire, qui à ce moment-là ont un petit coup de projecteur. Et généralement, on ne trouve pas les grosses stars, les gros producteurs de vin de Bordeaux, de Bourgogne, ils n'ont pas besoin de ça. Mais des petites appellations, on parlait du gris de Toul, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais là on en parle.
Alors Emmanuel Macron était présent aux côtés de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, pour cette remise de prix. Vous savez quel est le dernier président de la République à avoir été présent à cette remise de prix?
Sûrement Chirac.
Non, je pense que moi Mitterrand.
Eh bien, c'était Napoléon III.
Oh.
Ça fait 150 ans depuis l'origine de ce prix qu'un président ne s'était pas déplacé. Alors, comme les présidents s'expriment rarement sur leur coup de fourchette, j'en ai profité pour tendre le micro des bons vivants à Emmanuel Macron et je lui ai posé cette question.
Quel genre de bon vivant vous êtes?
Ah, alors moi, je suis un bon vivant, un vrai en même temps, là, moi aussi. Le en même temps politique, je le cultive. Je ne choisis pas, je suis compatible avec tout. Et écoutez, ça dépend.
Une blanquette et ensuite une petite salade.
Alors, la vraie blanquette, la bonne blanquette, j'adore ça. Mais j'aime les fruits de mer une fois de temps en temps. Je suis autant viande que poisson. Mais enfin, quand on va du côté de Rodez, on est très content de se taper une bonne viande. Moi, je l'aime bleue dans ces cas-là.
Ah, comme le ministre de l'Agriculture.
J'aime la truffe également.
Elles sont bien mûres en ce moment.
Oui, ouais, là c'est la saison. Dans la période, le gibier.
Et Guillaume Gomez à l'Élysée respecte les saisons, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Alors, on respecte les saisons pour les fruits et légumes. Et on les respecte aussi. Alors, on sert moins de gibier dans les repas officiels, mais moi je l'aime bien avec quelques amis ou en cercle. C'est vrai que j'ai un faible pour la blanquette. Mais enfin, j'avais dit quand j'étais en campagne, mon plat traditionnel français favori.
Eh ben voilà, il va se retrouver avec de la blanquette un petit peu partout, monsieur le président.
C'est le danger.
Ouais, puis ça fait plaisir d'avoir un président qui est gastronome et voilà, qui aime la bonne chair.
Oui, et le gibier.
Il aime manger et il aime boire et il l'assume.
Exactement.
Il le fait pas en cachette.
Et il ne mange pas que des. C'était quoi qu'on avait vu dans la campagne, dans les reportages? Que des cordons bleus. Oui. Voilà.
Et d'ailleurs, on peut, il vient quand il veut. Hein.
Mais absolument, mais l'invitation est lancée, figurez-vous. Vous ne croyez pas si bien dire. Donc on espère qu'on aura la chance d'avoir le président à cette table. Allez, c'est l'heure de retrouver notre camarade Jean-Luc Petit-Renaud.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ce samedi, Jean-Luc Petit-Renaud a envie de rendre hommage à son potager, un potager en hibernation. Mais vous allez entendre, il suffit d'une allumette pour raviver la flamme du jardin d'hiver. Bien le bonjour, l'ami.
Eh bien le bonjour, mes bons vivants. On parle tout le temps des jardins en plein été. Et moi, j'ai eu envie de rendre une petite visite à mon jardin, mais en hiver. Et je l'ai trouvé un peu sous son matelas de feuilles. Il était en hibernation. Il n'y a pas grand-chose qui pousse. Il y a le poireau qui fait la tête. Il y a la petite salade de mâche qui est là au milieu. Et lorsque je pousse ce petit portillon en bois, il faut ouvrir la porte de la fameuse cabane de jardin. Alors on jette un petit coup d'œil. Dehors, il y a la réserve d'eau qui est pleine de l'eau d'hiver. Et puis, il y a aussi retourné le fameux endroit où on va pouvoir faire les grillades. J'ai eu envie de craquer une allumette sur un morceau de journal, mettre quelques brindilles, redonner un semblant de feu, un semblant de rêve d'été. La fumée bleue monte comme ça sur le ciel et j'ai vu apparaître mon voisin. Il n'attendait que ça. Il pousse le portillon et il vient me dire bonjour au milieu de ce jardin qui dort. Et puis il n'en a pas fallu plus pour qu'il prenne sa voiture et qu'il fasse un petit saut chez le charcutier. Comme si on était encore en plein été à l'heure de la pétanque. Et il est allé chercher quelques côtelettes, quelques saucisses. En fait, un jardin, il ne dort jamais complètement. Il lui suffit de 2-3 petites côtelettes, un soupir de vent au-dessus pour attiser la braise et tout se remet à vivre. Vivement que les glaïeuls fleurissent, vivement, vivement. Vivement. Mais il a de la gueule, mon jardin d'hiver.
Ah ben, j'en doute pas, camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Mais c'est vrai, il a raison. Le barbecue d'hiver, d'ailleurs, ça se pratique au Canada et aux États-Unis. Hein. Pourquoi pas l'agrémenter d'un vin chaud, par exemple ?
Oui, alors le vin chaud à table, je ne suis pas grand fan. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des journées froides mais belles, c'est tellement agréable de se balader dans la nature et dans son jardin, y compris, pourquoi pas.
Et de voir le jardin hiberné.
Allez, avec une bonne doudoune, on prend l'apéro dehors.
Faut être couvert, sortez couvert, hein, comme on dit. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le dessert du jour. Et puis ce sera l'heure aussi d'accueillir notre invité, le comédien et humoriste Bruno Salomon. Et des nôtres, bon samedi midi sur Europe 1 et bon app et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire.
La table des bons vivants sur Europe 1. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Du marché jusqu'au dessert du jour qui arrive dans un instant, en passant par les prix d'excellence du concours général agricole, on s'intéresse à tout ce qui agite nos casseroles ce samedi. Et juste avant midi, vous le savez, c'est l'heure d'agrandir le cercle et d'accueillir notre invité.
Ça fait peur comme introduction.
un bon vivant, ça c'est obligatoire. Vous l'entendez, il est né à Marseille d'un papa sicilien et d'une maman flamande. Il cultive le goût de l'absurde et des personnages décalés à un rythme d'enfer. Il est aussi à l'aise sur scène dans le rôle d'un cochon d'Inde que dans celui du surfeur dans Brise de Nice ou d'un père de famille à côté de la plaque dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Il revient sur scène avec un one man show d'anticipation, s'il vous plaît, le show du futur au Palais des Glaces. Bruno Salomon est notre invité. Bonjour Bruno Salomon.
Oui. Bonjour. Bonjour. Mais bonjour Laurent, bonjour Yves, bonjour Olivier.
Je le fais pas aussi bien que vous parce que vous êtes entre autres évidemment la voix off de Burger Quiz. Vous auriez présenté Bruno Salomon comment alors ?
En léger différé, du studio on enregistre pour la première fois en France, Bruno Salomon.
Bien, je suis venu vous voir hier soir sur scène, Bruno. Vous ne vous économisez pas hein, sur scène dans votre one-man show donner. Du futur. Comment vous faites pour tenir ? Vous mangez un plat de pâtes avant, par exemple ? Non, parce que vous avez une énergie, c'est virevoltant. On va en parler du spectacle. Il y a une tonne de personnages comme ça et vous passez d'un univers à l'autre.
Alors surtout en termes de nourriture, non, je ne mange pas avant parce que sinon je suis trop lourd et moins mobile. Mais par contre, c'est vrai, des sucres lents, c'est pas mal un petit peu en amont. Mais non, l'idée, c'est de s'amuser, prendre du plaisir. Et puis c'est un spectacle que j'ai bien bossé quoi,
oui.
en amont. Donc je fais beaucoup de personnages, je passe de l'un à l'autre. Des fois, je m'y perds moi-même dans la vie, mais sur scène, jamais.
Ah, mais il faut voir Bruno Salomon sur scène, vraiment, parce que c'est une énergie débordante. Et puis physiquement, vous passez d'un personnage à l'autre sans vous arrêter. Alors c'est un one-man show d'anticipation. Ça se passe en 2040. C'est une chaîne de télévision. Il y a tous les personnages qui sont présenté dans cette émission. Vous incarnez tous les personnages de cette chaîne de télé et vous donnez même la parole aux animaux aussi.
Oui, à un moment, il va y avoir un événement fort, une révolution animale et les animaux ont la parole, ils s'expriment et se revendiquent et ils ne sont pas forcément là où on les attend, justement.
Ah oui, il y a un cochon qui vous plairait.
Un cochon qui est
Jean Bonneau.
Jean Bonneau, qui est un peu énervé ouais, comme cochon. Oui, puisqu'il ne veut plus qu'on le bouffe et il veut qu'on l'appelle des tire-bouchons. Parce qu'il en a marre d'être associé, que son nom soit associé à quelque chose de dégueulasse. Quoi.
Oui, c'est ça.
Espèce de sale porc, tu bouffes bouffe comme un porc.
Balance ton porc.
Voilà, balance ton porc.
Et alors que c'est propre. Alors
exactement. C'est, propre en plus. C'est ce qu'il dit, d'ici aussi propre qu'un mouton. Hein, espèce de sale mouton, ça marcherait très bien. Pourquoi c'est le porc ? Et les chats, ça se lave avec sa langue, c'est dégueulasse.
Alors qu'un tire-bouchon est un outil foutrement sympa. Regardez, j'en ai un là.
Quel est votre goût de la semaine, Bruno Salomon ?
Alors, je me suis fait des sols au chou de Bruxelles.
Et joli.
Bon, c'est assez simple. Moi, je fais de la cuisine vraiment pour me faire plaisir.
Oui, mais vous cuisinez régulièrement. Hein.
J'essaye de faire des choses simples. Ouais, mais
comment vous les avez cuits, vos choux de Bruxelles ?
Alors, j'avais fait deux versions. Je les avais cuits une première fois à la vapeur. On m'a dit, faut pas les cuire à la vapeur, faut les faire blanchir à l'eau. Alors après, j'ai fait une deuxième version. Je les ai fait blanchir à l'eau et après saisir un petit peu à la poêle avec un petit peu de beurre.
Mais on peut même les saisir sans les blanchir, hein, Yves, quand devant les choux de Bruxelles.
On peut les démarrer, mais après, c'est plus long en cuisson. Le fait de les blanchir avant, ça permet de réduire la cuisson. Après, je ne sais pas qui vous a dit de ne pas les faire à la vapeur. Bon, à la vapeur non plus, ce n'est pas si mal que ça.
Vous aimez aller au restaurant, Bruno Salomon.
Oui.
Vous suivez les conseils des critiques gastronomiques pour choisir une table, parfois ?
Non, j'y vais un peu à l'instinct. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand je suis à l'étranger, j'aime bien me faire confiance. C'est-à-dire, je passe devant un restaurant, je dis tiens, je regarde les assiettes et je fais confiance à mon odorat.
Ah,
je dis tiens, ça sent bon, il y a un truc qui m'attire, j'y vais.
Et vous avez bien raison.
Et très souvent, ça marche.
Alors, on vient de perdre un grand critique gastronomique cette semaine. C'est notre camarade Sébastien Demorand et on voudrait lui rendre hommage dans cette chronique. Il a fait partie de l'aventure du Guide Fooding. Il était critique au Go et Mio. Il était chroniqueur gastronomique pour plusieurs radios. RTL notamment aux côtés de Bernard Poirette. Il a commencé sur Europe 1 aux informations générales et il a ouvert le Bel Ordinaire, Sébastien Demorand. C'est un joli restaurant épicerie dans le 10e arrondissement. Yves, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez très bien connu Sébastien Demorand. C'était un de vos amis. Et il faut quand même, sans être dans le copinage, mais il faut qu'on explique ce que Sébastien a apporté au métier de critique gastronomique, Yves.
Oui, je pense que Sébastien fait partie de ces grands journalistes qui accompagnent les restaurateurs, qui accompagnent les cuisiniers. Voilà, parce que quand on est restaurateur-cuisinier, on a aussi besoin d'avoir certains repères, d'avoir des jugements. Et Sébastien, c'est vraiment la personne qui savait, je dirais des fois, mettre des mots sur nos pensées culinaires. Et ce qui est très important pour nous, c'est avoir, voilà, quand on fait un plat, quand on fait un service, d'avoir un retour face à nous, quelqu'un qui va nous parler techniquement, qui va nous parler qualitativement, qui va nous parler sans nous juger, mais surtout qui va quand même nous dire les qualités et les défauts de notre cuisine.
C'était quelqu'un qui ne jugeait pas, mais qui argumentait beaucoup. Et on parle beaucoup, vous savez, de bistronomie, ce mot qui est un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. Et c'est Sébastien Demorand qui a inventé ce mot de bistronomie au début des années 90. Et il l'a utilisé même pour, on va dire, définir et singulariser votre cuisine de l'époque, Yves Condebord. Et c'était un nom qui ne vous plaisait pas trop au départ, hein, Yves même.
Non, parce que nous, on avait, la génération, je dirais 90, on avait choisi de quitter un peu toutes les grandes maisons de la gastronomie française. Donc on a fait des tables, on a fait nous pratiquement des auberges très personnalisées par nous, par les cuisiniers, où on faisait une cuisine de très haute qualité et on a enlevé, je dirais, tout le décor homme qui coûtait de l'argent en finalité dans l'addition. Et Sébastien a choisi ce mot de bistronomie. Alors le mot bistronomie, moi je trouve ça très péjoratif parce que le bistrot de l'époque c'était quand même le côté où il y a le petit aller canonner, manger une tranche de saucisson avec un petit coup de rouge.
Donc ce qui n'est pas mal non plus, quand même. Hein.
Ce qui n'est pas mal non plus, mais en tant que cuisinier, on se ressentait un peu rabaissé. Et c'est là que Sébastien est venu nous voir, parce qu'il nous sentait très vexé avec tout le groupe de l'époque, nous expliquer qu'en fin de compte, au contraire, c'est qu'il honorait ce qu'on faisait, parce qu'il nous disait, j'ai compris ce que vous faites. Vous êtes en train de faire des endroits très conviviaux, des endroits simples où il fait bon vivre, en gardant l'âme de l'assiette de la haute maison.
Et les bases, les techniques que vous aviez apprises au crayon avec Christian Constant, par exemple, que vous avez pu dupliquer dans votre cuisine avec des produits simples, accessibles et presque rustiques parfois pour certains produits. C'est pour ça, on le disait tout à l'heure, vous avez anobli la queue de bœuf.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, quand on a fait ce qu'on a créé, là, donc cette fameuse bistronomie, quand on a fait nos plats qui étaient assez incompris, voire un peu aussi, je dirais, rejetés un peu par les instances bien pensantes de notre métier. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, au crayon, on faisait un bar de ligne avec un couscous végétal, avec un jus de homard. Moi, j'ai fait à l'époque, à la régalade, j'ai fait un maquereau de ligne avec le même couscous de légumes, avec un jus d'étrille. On peut voir la différence du coût d'achat des produits. Mais sauf qu'à la finalité, l'émotion de goût était là. Et quand on avait un journaliste comme Sébastien Demorand qui venait manger ce plat-là et qui nous disait, les gars, c'est là que vous avez tout compris. Parce que vous gardez l'âme, vous gardez l'esprit, vous gardez le goût et vous le rendez accessible au plus grand nombre.
Et ben voilà, ben on voulait lui rendre hommage ce matin. On a une pensée, bien entendu, pour sa famille, Sébastien de Morand, qui était un bon copain et qui va
et un bon vivant.
Nous manquer. Et un bon vivant, effectivement. C'est un mauvais mort. On n'est pas content qu'il soit parti aujourd'hui. Restez avec nous pour notre dessert du jour. Nous allons faire un joli riolet, Bruno Salomone. Ça vous parle? Ça, c'est bien réconfortant, ça. Hein,
un petit riolet.
Un allez, petit riolet, comme ça.
Olé, olé. Moi, je suis très olé, olé.
À l'espagnol. Bruno Salomone est notre invité jusqu'à 12h30 et on revient après les titres du journal de la mi-journée. A tout de suite.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Ça fait rire Bruno Salomone.
Un café, s'il vous plaît.
Les meilleurs morceaux de viande à faire mijoter, les fruits et légumes qui nous veulent du bien en hiver, un dessert qui réchauffe et les deux minutes du vin. Dans un instant, on dresse la liste de nos envies depuis 11h à la table des bons vivants en compagnie de Bruno Salomone.
Alors,
on est bien avec vous.
C'est vrai, moi aussi, je me sens bien.
Vous avez incarné.
Il y a à manger, il y a à boire, c'est rare d'avoir ça dans une émission.
C'est une émission concrète. Hein.
Ouais. On sent bien tout de suite, c'est marrant. Un verre de vin et tout de suite, tu te détends.
C'est vrai.
Même de le regarder. Hein.
Mais ça.
Oui, mais il ne faut pas que le regarder.
Il faut pas que... Non, déjà, tu le humes.
Il faut le sentir.
Et après, tu le goûtes.
Hein. On va parler deux minutes du vin, on va parler des cépages dans un instant avec Olivier Pouls. Bruno, vous avez incarné Denis Boulet dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Un père au foyer qui mitonne des petits plats et qui finit par avoir un food truck et son propre resto,
et son propre resto sur une péniche.
Sur une péniche, ouais. Un père moderne et qui aime cuisiner.
Totalement à la page, quoi. Il était moderne, il faisait même le ménage, il faisait tout. Enfin, j'aimais bien justement ce parti pris, que ce ne soit pas l'homme macho. Pour une fois, on casse les codes. Et Isabelle Géninas, qui fait ma femme, est une femme qui tient...
Madame Boulet.
Madame Boulet, qui porte la culotte.
Ça va revenir ou ça va pas revenir, cette série?
Justement, on est dessus, là. On aimerait bien que ça revienne un peu comme font les Anglais, les spéciales Noël. Ils font des spéciales Noël, donc
bonne
ce
idée.
Serait 2x52 minutes.
Ah ben on est preneurs.
Ben nous aussi.
Ah ben avec plaisir. Ben écoutez, voilà, c'est une annonce, on ne savait pas. Comme de nombreux enfants dont les parents travaillent, Bruno Salomone, vous êtes mis à cuisiner assez tôt, tout seul, dans votre coin.
Oui, petit, j'étais avec ma maman et...
3 ans.
Et à 3 ans, j'ai cuisiné en naissant, en fait. Je suis né avec une cuisse de poulet. Non, j'ai... Très tôt, en fait, le mercredi, j'étais seul face à moi-même et il fallait que je me fasse à bouffer, quoi. Donc, très vite, je me suis débrouillé.
Il y a eu des tentatives un peu spéciales, quand même.
Oui, c'est ça. C'est que quand j'étais petit, j'aimais bien les knackis, mais les knackis crus.
Oui.
Et je pensais que toutes les saucisses se mangeaient crues. Bêtement, quand on est petit, j'étais vraiment très petit. Je devais avoir 10, 12 ans. Donc, j'ai été chez le boucher, j'ai acheté des chipolatas et j'ai mangé les chipolatas crues.
Ah oui?
Ouais, mais je dis, c'est bizarre, ça n'a pas le même goût que les
knackis. C'est un tartare de bœuf. Un tartare de porc.
Un tartare de chipolata. Je ne sais pas, la qualité ne devait pas être.
Cela dit, c'est encourageant parce qu'à 12 ans, on va plutôt acheter des bonbons et vous alliez acheter chez le boucher des chipolatas. C'est pas mal quand même.
Oui, il fallait que je me nourrisse parce que que des bonbons, ça nourrit pas son âme.
Alors, on sait que vous êtes un bec sucré, Bruno Salomone. Ouais. Voilà pourquoi on va faire un joli dessert spécialement pour vous, un dessert régressif.
Régressif, c'est-à-dire que je vais régresser personnellement.
Peut-être que vous allez retomber à l'époque des chipolatas, parce que je pense que votre maman devait vous faire des riolets de temps en temps, non?
Non, pas trop.
Non
pas
Qu'est-ce
trop
qu'elle
de
faisait
riolets.
Comme dessert, votre maman?
Elle me faisait un truc qui était assez gêné, elle appelait ça la pyramide, je ne sais pas si ça s'appelle. Elle trempait des petits lus dans du café et elle mettait une couche de chocolat et elle faisait comme ça.
Comme une bûche,
c'était merveilleux.
Ah, c'est délicieux, ça.
J'adorais ça.
Ah, ça, c'est très bon, avec du beurre et on tartine avec
du beurre. Ouais, c'est très sucré.
Oui, c'est gras et sucré, c'est tout ce qu'on aime. Alors, tiens, on va s'amuser à faire un petit quiz des desserts de grand-mère. On parle du riolet, mais on a plein de desserts de grand-mère en souvenir, Olivier Pouls.
Moi, c'était les pommes au four, tout bêtement.
Ah oui.
Les pommes au four avec tout simplement du beurre et puis on l'arrose et le cuit lentement et on ne l'épluche pas d'ailleurs pour qu'elle tienne encore, on garde la peau. Puis après, on la mange tiède avec une boule de glace.
On donne
magnifique.
Des petits coups de couteau à la surface
pour
de la peau pour pas que ça éclate trop. Yves Candebord, votre dessert de grand-mère.
Moi, il y en a deux. Il y a la crème caramel, la fameuse crème caramel que j'ai rentrée de l'école, que maman préparait, et surtout le gâteau de riz. Alors, le gâteau de riz, en fin de compte, c'est un riz au lait. Mais vous faites un caramel, vous versez le caramel dans un moule. Vous versez votre riz au lait dessus et vous remettez à cuire au four pendant 25-30 minutes. Vous laissez refroidir et quand vous démoulez, Donc il y a ce caramel qui va couler sur le riz et c'est une petite merveille.
Il y a compète avec le gâteau de votre maman parce que c'est vrai que les petits lus trempés dans le café et la crème au beurre. Non, mais je ne plaisante pas, j'adore ce dessert et je peux vous dire que les auditeurs connaissent ce dessert parce que c'est dans toutes les familles.
Ça, on en a tous mangé.
Ce gâteau de lus au café et petit beurre.
Je pensais que c'était unique,
j'ai cassé un mythe. Alors, Olivier, vous avez trempé le micro dans le riz au lait archi-classique de Glenviel à Lousteau de Beaumanière au Beau de Provence. Oui. C'est un jeune chef qui travaille avec vraiment le terroir et le territoire autour de chez lui, dans une belle région.
Hein. Alors, un endroit magnifique, un des plus beaux endroits de France, les Beaux de Provence. Qu'est-ce que c'est beau. Puis c'est vrai que c'est un chef très engagé aussi. Alors là, il s'engage à nous faire une belle cuisine régressive, comme vous l'avez dit. Je suis allé le rencontrer pour qu'il me parle du riz au lait que lui faisait lui son père, en l'occurrence. Il va nous en donner la recette. Riz au lait, plat très ancien, hein, ça date apparemment du XIIIe siècle, des croisades, où on trouve les premières traces écrites du riz au lait, mais qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il n'y avait ni sucre ni vanille.
Alors, quelles sont les règles d'or à respecter pour réussir le riz au lait? Écoutez Glenviel au micro d'Olivier.
Moi, c'est rassurant et intemporel. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
Qu'est-ce qu'on a devant nous?
En fait, pas grand-chose. Du riz, un riz rond, un lait entier, bien sûr, du sucre, une gousse de vanille.
Et une belle cocotte qui a déjà servi.
Voilà, pour que ça accroche un peu, parce que ce qui est meilleur dans le riz au lait, c'est ce qui se trouve sur le côté. C'est ce qui est un peu caramélisé, là. Hop, le sucre.
Alors, en proportion, il y a quel volume de lait par rapport au riz?
Là, on est sur 1 litre de lait pour 50 grammes de riz. C'est la recette de Brandon qu'il a mis en place pour la maison. Il y a toutes les proportions possibles. Moi, par exemple, mon père, il met 80 grammes de riz. Écoutez bien, pour 3 litres de lait. Donc voilà, là on va commencer à le faire, à le mettre sur le feu. On n'oublie pas de mettre la gousse de vanille qu'on gratte d'ailleurs au préalable.
Et puis on l'oublie sur le feu.
Presque 2 heures de cuisson là. Donc on aura le riz forcément qui sera au fond. Et le côté un peu caramel, enfin lait de caramel ou confiture de lait. On peut rajouter aussi une pincée de sel. Pour moi ça j'adore. Et là ça c'est magique ça. C'est tout con mais c'est magique.
c'est tout con mais c'est magique.
Mais c'était tellement bon qu'il n'y en a plus, vous avez tout mangé Olivier.
On a tout mangé, on vous en a même pas ramené.
C'est vrai que
c'est pas du riz au lait, c'est du lait au riz en fait.
mais c'est vrai que ce riz rond, ce riz italien, il contient quand même beaucoup d'amidon et donc il va lier quand même et donner un côté très onctueux à cette préparation.
On peut mettre une sauce chocolat si on veut le twister, le pimper, comme on dit aujourd'hui. Et quelques quartiers de clémentine, c'est encore la saison de la clémentine. Ça marche.
Là, on commence la saison aussi de l'orange amère. Faire une belle confiture d'orange amère avec l'amertume, le contraste, c'est très agréable.
Vous voyez, après le spectacle, Bruno Salomon, après votre show du futur au Palais des Glaces, un petit riz au lait.
Un petit riz au lait, une petite orange amère. On se mélange tout ça et on est bien.
Alors, comme tous les samedis, nous allons répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des Bons Vivants au 3921 et puis sur la page Facebook des Bons Vivants. Ce sera juste après ça. On va y répondre avec Bruno Salomon qui a une question aussi. Bon samedi midi sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bruno Salomon est notre invité. Il est actuellement sur scène, enfin pas actuellement, mais le soir, avec le show du futur au Palais des Glaces.
C'est fort le mec, il se dédouble.
One Man Show d'anticipation. Nous sommes projetés en 2040 devant une émission de télévision dont vous jouez tous les personnages, et ça, il faut vraiment le voir sur scène, Bruno Salomon, le présentateur du journal,
l'animateur mégalo qui est prêt à tout pour faire de l'audimat, la chroniqueuse mode.
Tout.
Il y a aussi, il y a le scientifique un peu scatologique qui s'appelle Archimède, et le comique de service qui enchaîne un petit peu les bides,
mais
qui est collectionneur de bides. En fait.
Il y a pas d'émission de cuisine, on ne cuisinera pas en 2040.
Ah oui, effectivement, j'aurais pu mettre un petit, mais bon, après, ça aurait été peut-être un autre spectacle, un petit peu long parce que il dérive très vite. Le spectacle, c'est-à-dire que l'émission est coupée à un moment parce qu'il y a un événement fort, il va y avoir une révolution animale.
C'est vrai, avec Jean Bonneau dont on parlait
tout
à l'heure. Vous fréquentez les bonnes tables, Bruno Salomon, notamment celle de Bernard Paco.
Ouais.
Avec quel plat, avec quelles assiettes il vous fait vibrer, Bernard Paco, qui est un de nos plus grands chefs cuisiniers, le chef de l'Ambroisie à Paris, que discret.
Ouais, j'ai la chance d'être ami avec eux, c'est fait par hasard. Et vraiment, à chaque fois que je mange chez Bernard, c'est exceptionnel. Et la feuilletine de langoustine, j'avoue que j'ai un petit faible, un gros faible.
Ouais, c'est un de ces grands classiques qui a fait sa réputation. Et c'est vrai que la maison Paco est une des plus grandes maisons de France. Et Laurent, vous avez raison de le dire, il est aussi grand qu'il est discret.
Amis auditeurs, c'est l'heure de retrouver une de vos questions enregistrées au 3921.
Bonjour Laurent.
Laurent et bonjour à toute l'équipe. Nathalie de Nuit-Saint-Georges. J'ai une question pour Olivier Pouls. J'ai récupéré chez mon grand-père une bouteille de Pommard 87 et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Était-ce une bonne année? Tout en sachant qu'elle était stockée en cave et allongée. Merci pour le renseignement et bonne émission.
Elle a bien été conservée, ça c'est important.
Une drôle de tête, Olivier.
Ouais. Alors, dis donc, vous faites le grise mine, ça, on parle d'un pommard.
Je vais annoncer tout de suite la mauvaise nouvelle. 87, c'est pas un grand millésime.
Ah mince.
Il y a donc assez, surtout que là, 87, ça commence à dater un peu. Il y a assez peu de chances pour que le vin soit remarquable. Alors, comme il n'y en a qu'une et que ça vient du grand-père, moi je propose de la garder en témoignage parce que c'est toujours un souvenir sympathique. Ce qu'il faut regarder aussi, ce qui est important dans le cas de vieilles bouteilles comme ça, c'est si le niveau est encore très bon, ou si le niveau a baissé, c'est-à-dire si une partie du vin s'est évaporée. Si le niveau est parfait, on peut tenter le coup. Si en revanche, il manque 3-4 cm de vin dans la bouteille, on la garde tranquillement.
Et admettons que ce soit un super millésime, combien de temps on peut la garder, jusqu'à quand?
Les très grands millésimes, ils sont presque immortels. Moi, j'ai goûté des vins qui avaient 100 ans et qui étaient encore d'une jeunesse absolument incroyable. Donc, il n'y a pas de limite. Mais malheureusement, dans les petits millésimes, l'histoire n'est pas la même.
Bruno Salomon, tiens, si vous avez une question, c'est le moment.
J'adore une chanson des Charlots qui s'appelle « Le chou farci, les joies du chou farci ». Et ils m'ont donné envie de faire du chou farci. J'en ai jamais mangé. Et j'aimerais savoir comment on fait un chou farci.
C'est pas compliqué, Yves. Hein.
C'est pas très compliqué.
Tu prends un chou, tu le farci.
Ça demande un peu de temps. Les feuilles de chou, déjà, toutes blanchies. Ouais. Comme pour les choux de Bruxelles, on les blanchit au préalable, on les égoutte bien, ouais. On fait une bonne farce, on demande à son boucher de préparer une farce, moi je suis assez moitié veau, moitié porc,
d'accord.
Une farce assez riche, et après dedans il faut y rajouter des herbes, en ce moment des marrons, si vous avez un peu de truffe, voilà, bien assaisonner, bien la marquer, et après vous prenez ce qu'on appelle, vous savez, un cul de poule.
Un saladier,
d'accord. Il faut que ce soit en fer quand même, parce qu'on va le passer au four, voilà, c'est-à-dire où on mélange souvent pour la pâtisserie. Et là, on va chemiser avec les feuilles de chou. On chemise, après on met de la farce, on remet les feuilles de chou, on met de la farce, ainsi de suite. Vous pressez bien et vous mettez ça au four pendant 1h15.
Ah.
Vous laissez reposer 15 minutes, vous démoulez, vous avez un joli chou farci.
C'est bien.
C'est fou. Quand il le raconte, j'ai les odeurs qui arrivent avec. Ben j'ai senti la truffe quand vous avez parlé de truffe. C'est incroyable.
Et moi,
j'ai même la truffe en vous.
J'ai même la musique, moi, qui vient avec.
Pour faire du chou farci.
Les Charlots.
Du chou farci comme nous deux on l'aime. Avec un beau hachis.
Mais oui, le hachis d'Yves Candebordes. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls, sans oublier le questionnaire des bons vivants de Bruno Salomon. A tout de suite sur Europe 1, bientôt midi et demi, restez avec nous. Hein.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Le temps passe vite à la table des bons vivants. Bientôt fini. On est encore ensemble jusqu'à midi et demi. Restez là. Hein.
À table, en plus, c'est dans.
À table.
À table.
Ben oui, bien sûr.
Il fait mieux que moi, Valérie Bonneton.
Nous l'avons reçu, Valérie Bonneton, à votre place l'année dernière, absolument. Alors, avant de retrouver Bruno Salomon sur la scène du Palais des Glaces dans son One Man Show d'anticipation, le show du futur, il est dans le présent, bien dans le réel ce midi à table sur Europe 1. Qu'est-ce que vous faites habituellement le samedi midi à cette heure-ci, Bruno Salomon? Vous rentrez du marché, vous cuisinez?
Ah oui, souvent j'ai un petit marché à côté de chez moi, il y a un primeur qui a des légumes mais incroyable, et donc je vais fouiner là, puis je me prépare à manger gentiment.
Ah ça c'est bien, vous êtes un cuisinier novice, mais, débrouillard et instinctif.
C'est ça, mais ce que j'aime bien moi c'est prendre les restes, tout ce qui reste dans le frigo, et puis de me faire un peu des choses au feeling, je fais confiance à mon instinct.
Vous avez bien raison.
Et très souvent ça marche.
Et Bruno Salomon côté vin, qu'est-ce que ça donne?
Ah, moi j'aime bien les Bourgognes, Loire. Alors j'étais converti justement par les Paco, c'est eux qui m'ont converti au vin blanc, parce que j'avais un problème avec le vin blanc, j'avais des maux de tête systématiquement.
Le chef Bernard Paco.
Et chef Bernard Paco, et j'ai eu la chance de goûter un Chassin de Montrachet qui m'a complètement. Et puis depuis, je suis. Bon, voilà, je suis
grande émotion.
Vin blanc, quoi. Le vin blanc, c'est merveilleux.
Il vous y a amené par la voie royale, hein.
Oui, c'est ça. Je suis passé directement par la voie.
Alors, il y a 15 jours, Olivier, vous nous avez parlé des terroirs. Vous avez été nombreux à apprécier cette chronique. Alors, justement, on continue dans la lignée puisque nous allons parler des cépages ce matin. Pas de terroir sans cépage, pas de cépage sans terroir. On va revenir vraiment à l'origine. Qu'est-ce que c'est qu'un cépage, Olivier Pouls?
C'est effectivement le complément du terroir. Le cépage, c'est la variété de vignes qui se retrouve plantée un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle Vitis vinifera. C'est une vigne qui est domestiquée par l'homme, car la vigne, à l'origine, c'est une liane, c'est une plante sauvage. Elle est domestiquée par l'homme, et l'homme, en la domestiquant, lui permet de faire des raisins, ces raisins qui sont vinifiables. Il existe aujourd'hui dans le monde entre 6 et 7 000 variétés de cépages différents, sachant en France, par exemple, que 250 seulement sont autorisés. Enfin, 250, c'est énorme.
C'est énorme, déjà, oui. Alors, il y a ce qu'on appelle des cépages endémiques qui sont liés vraiment à une région, à un terrain et à un territoire, et puis d'autres qui sont des cépages voyageurs. Cépages endémiques, on en trouve un petit peu partout sur le territoire. Hein.
Oui, alors, c'est très compliqué. Hein. L'étude des cépages s'appelle l'empélographie, et on essaie de comprendre, finalement, chacun de ces cépages, d'où ils viennent. Alors, ils ont des régions, des bassins de naissance différents. Certains sont issus de croisements, certains sont plus purs que d'autres. On parlait de cépages endémiques, de vieux cépages. On peut citer par exemple le romorantin dans la Loire. Il n'en subsiste plus beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle un vrai cépage endémique. Le prunelard ou l'ondin qu'on va trouver dans le sud-ouest. Et puis il y a des cépages, il y a une quarantaine de cépages dans le monde qui sont des cépages, on va dire, comme vous le dites, voyageurs un peu tout-terrain, qui s'adaptent assez finalement, qui sont très populaires. Le Cabernet Sauvignon, le Merlot ou le Chardonnay en blanc sont des cépages assez facile à travailler parce que finalement on ne peut pas planter n'importe quel cépage n'importe où. Il faut que le cépage s'adapte et à la nature du sol sur laquelle il est planté, mais aussi à l'environnement, c'est-à-dire aux conditions climatiques.
Alors tout ça vaut une petite dégustation. Et tiens, pour le bruitage de la dégustation, on va demander à Bruno Salomon, qui adore les bruitages.
Vous voulez que je vous fasse une bouteille qu'on débouche, ça ferait oui.
Comme ça. Vous l'avez ou pas?
Bien, ouais,
pas mal.
Après.
Bon, je peux pas... on y était. Et qu'est-ce qu'on voit alors, Olivier Pouls?
Voilà, pour vous montrer que le cépage a une influence évidemment sur le goût. Dans un certain nombre de régions, on mélange les cépages, mais dans d'autres régions, on les utilise en monocépage, donc sans les mélanger à d'autres. En Alsace, c'est le cas par exemple. Donc là, vous avez un Riesling et vous avez un Pinot Gris, donc deux cépages différents dans la même région. Vous voyez bien que les vins n'ont pas le même goût. Ils sont évidemment aussi issus de terroirs différents, mais la nature du cépage influe sur le goût.
Et oui, il y en a un qui est plus sec, on va dire, qui est plus droit, et un autre qui est un peu plus fruité.
Voilà, vous en avez le Riesling donc, qui vient des vignerons de Pfaffenheim, est un cépage qui donne des vins plus tendus, et puis voilà, un peu plus rond pour le Pinot Gris, qui lui vient de la maison Rens.
Eh bien, merci Olivier Pouls. Et cher Bruno Salomon, ça y est, c'est le moment. C'est l'heure de répondre au questionnaire.
Tu vas te mettre tout nu. C'est maintenant.
C'est l'heure de répondre au questionnaire des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, cher Bruno?
Ah, je me souviens. C'était ma grand-mère qui me faisait des... Moi, c'est les petits déjeuners de ma grand-mère. C'était du pain viennois avec un beurre salé et des petits bouts de chocolat.
Oh, c'est joli.
Des petits bouts de carré de chocolat. Des fois, même, je rajoutais de la confiture, je me faisais des Pimps. Oui.
Ah oui, Pimps maison.
Pimps maison.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
Ah bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des chipolatas crus, un tartare de chipolata.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Ah bah vraiment, c'était chez Monsieur Bernard Paco, où j'ai goûté ces feuillantines de langoustine merveilleuses.
L'Ambroisie à Paris.
L'Ambroisie.
Votre pire repas, Bruno Salomon?
Mon pire repas, alors là, c'était vraiment pur hasard. Je me suis retrouvé invité, j'étais au Cap-Vert par un monsieur adorable, qui était vraiment adorable, et il m'a fait une sorte de semoule au sable. C'est-à-dire qu'il y avait des grains de sable dedans. J'ai dit, c'est exprès, mais on ne se comprenait pas très bien. Et après, il a amené une viande, mais vraiment une viande qui marinait dans du sang. Et là, j'ai dit, waouh. Et en plus, ce qui était terrible, c'est que je n'avais pas faim. Donc déjà, à la base, il m'invitait, donc par sympathie, j'ai dit, oh, ok, c'est sympa, hein, machin. Et c'était pas
ça. Terrible. Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Bruno?
Je pense que je me prendrais des tonnes de pâtes. Je me ferais cuire des pâtes. J'avais fait ça en colonie, je me rappelle, on avait cuit des pâtes à l'eau de mer. C'était dégueulasse. Mais en même temps, ça permet de...
Oui, pour dire qu'il ne fallait pas saler, quoi. Ils ont voulu...
Ouais, puis tu pêches des gambas, tu te fais des pâtes aux gambas.
C'est ça, hein, exact. Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Je pense que je mettrais Hubert Reeves pour mes AD.
Oui, pour la science.
Coluche, Louis de Funès pour me marrer, Penélope Cruz pour le climat.
Oui, joli visage. Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Bruno Salomon?
Ah bah, c'était la seule au chou de Bruxelles.
La seule au chou de Bruxelles, c'est bien, c'est un joli plat.
Et c'était très bien, très agréable.
Je veux bien croire.
Simple, pur, net, au beurre.
De la bistronomie, comme Yves Condebord, on y était. Et le mot de la fin, F-A-I-M?
Jeu de mots. J'adore les jeux de mots. Je dirais, je sais pas, un café, Dijon, l'addition, et l'addition, c'est pour Europe 1.
Eh ben voilà, bravo. Eh ben on prend. Merci d'être venu, merci. Bruno Salomon, à cette table. On était ravis de vous recevoir. Je rappelle votre actualité, comme on dit, vous êtes au Palais des Glaces avec le show du futur jusqu'au 28 mars. Si vous n'avez jamais vu Bruno Salomon sur scène, il faut y aller parce que c'est un spectacle et un festival à lui tout seul. On a l'impression qu'ils sont plusieurs. C'est pas compliqué.
Mais je suis plusieurs.
Oui, il est plusieurs. Ils sont très nombreux
à être plusieurs
dans sa tête.
Dans ma tête.
Merci à Lucie Courou, Julien Amab de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Serge pour la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Les recettes et les références vous attendent sur europe1.fr. Même adresse pour vous abonner au podcast, les amis. C'est le week-end. Bon week-end. Faites le marché, la cuisine et le reste aussi.
Oui,
et le tire-bouchon. Et bon week-end, Justine.
C'était Giscard par le Luron.